Allô, allô.
Allô, allô, allô.
C'est André Gide.
Allô, allô, tu m'entends? Voilà. Est-ce qu'elle fait beau temps là-bas sous ton ciel?
Qui vous téléphone? Qui vous parle de la Côte d'Azur?
Écoutez ce qui va être un prodigieux document humain.
Bonsoir, mon cher Philippe Souffaut.
Y a-t-il au monde un mot plus chargé de sens et de prestige que celui de poésie?
Bonjour et bienvenue dans Prosopopée, votre rendez-vous culturel.
Un mercredi par mois de 17h à 17h30, nous évoquerons ensemble la mémoire d'un auteur, d'un poète, d'une chanson, d'un musicien.
C'est le début de semaine, vous avez tout votre temps, tout va bien, le trafic est fluide, vos idées sont claires. Accordez-vous cette demi-heure de découverte en notre compagnie.
Tourne pas toujours ta langue dans le même sens.
Mais attends, mais c'est mon style de roulage de pelle. Chacun son style de roulage de pelle. Heureusement que tout le monde n'a pas la même technique, chacun sa technique.
Et t'as embrassé qui déjà?
Bah, des autres gens, des filles, des italiennes.
Très bonne année à vous, chères auditrices et auditeurs de Radio Bartas. Nous vous proposons d'attaquer cette nouvelle saison par un souffle tantôt passionné, fou, fiévreux, incontrôlable même.
Un élan prohibé depuis presque un an maintenant. Distanciation physique oblige, protocole sanitaire, distance morale, politique, préventive, restrictive, à ce rythme quasi définitive.
Puisque nous devons garder nos distances et limiter nos contacts, nous nous faisons une joie de faire une entorse au soi-disant règlement et de réchauffer ce climat un tantinet frileux.
Plus question de gestes barrières, nous allons vous parler des plus beaux baisers de la littérature.
Dans le monde d'avant le virus, voilà une chose qui semblait plus ou moins anodine, voire banale.
Mais aujourd'hui, un baiser prend l'allure d'un crime contre l'humanité. Pour le moment, avançons à couvert avec notre masque chirurgical, personnalisable, jetable, lavable, avec filtre transparent, à valve, à gaz. Plus question de s'approcher et de se toucher.
Avec l'espoir qu'un jour nous sortirons lèvres offertes à l'inconnu. Mais pour le moment, voyageons d'histoire en histoire.
D'auteur en auteur.
De bouche à bouche. Cette émission, nous la voulons positive, réconfortante, afin d'oublier un instant, n'est-ce pas Baudelaire, ce couvercle qui pèse au-dessus de notre tête.
Bon baiser de Bartas.
Mais tout d'abord, de quoi parlons-nous et soyons précis.
12 secondes, c'est la durée du baiser parfait.
Des études ont estimé que l'on embrassait environ 100 000 fois dans une vie.
L'âge moyen du premier baiser se situe entre 12 et 13 ans en Allemagne, 16 et 19 ans au Japon, 15 en Italie, 13-14 ans en France et aux États-Unis.
En Europe, les Français et les Italiens sont les plus généreux en bisous, avec une moyenne de 7 par jour. Les Allemands et les Suédois, en revanche, tournent autour des 4 fois par jour.
Une minute de baiser passionné peut brûler 6 calories.
65% des gens penchent la tête sur la droite pendant qu'ils embrassent.
La première fois que deux hommes se sont embrassés sur grand écran, c'était en 1927, dans le film Wings.
Dans le Colorado, une loi stipule qu'il est interdit d'embrasser une femme endormie.
En France, on interdit d'embrasser quelqu'un sur les quais d'une gare. Cette loi a été créée pour éviter les retards de train, dû aux amoureux se disant au revoir.
Une croyance soudanaise dit que la bouche est la porte d'entrée vers l'âme. Certaines personnes refusent donc d'embrasser, de peur qu'on la leur vole.
La pierre de l'éloquence ou Barnestone se situe en Irlande. D'après la légende, l'embrasser donnerait le pouvoir de l'éloquence. Chaque année, 400 000 touristes tentent le tout pour le tout.
Commençons notre voyage par un indigné, par un des plus grands auteurs français. Colosse au souffle immense, Émile Zola.
Il définit les trois écrans qui s'interposent entre l'artiste et le monde. L'écran classique qui épure et affadit, l'écran romantique qui exagère forme et couleur et l'écran réaliste qui, vous vous en doutez, a ses préférences.
Selon lui, il est comme une vitre unie, très transparente, sans être très limpide, donnant des images aussi fidèles qu'un écran puisse donner.
Zola enlève sa visière de protection. Son écriture est un miroir qui tente de dévoiler la plus stricte et parfois triste réalité.
Jules Romain dira que Zola a tout flairé en sa fraîcheur, tout compris et mesuré avant les autres.
Épanouissement de l'âge industriel, croissance et prise de conscience du prolétariat.
Naissance de cet être prodigieux qu'est la grande ville moderne.
Drame de l'évolution économique, de la concentration capitaliste dans la production, le commerce, la finance.
Personne n'a fait preuve à son époque d'une pareille sensibilité aux forces et aux virtualités du monde moderne. Tout compte fait, quand nos modes littéraires modernes seront devenus parfaitement ridicules, les gens trouveront que Zola, en somme, a très peu vieilli.
ouvrons sans plus tarder La Fortune des Rougon, premier tome de la saga des Rougon-Macquart, publié en 1871.
Fresque passionnante et effrayante sur fond de Second Empire. 20 romans sur le peuple qui ne mentent pas et qui ont l'odeur du peuple.
Le début du roman a des allures d'opéra. Zola disait lui-même « Mes œuvres sont bâties comme des grandes symphonies musicales ». Le décor apparaît, Plassans, une ville du sud, un terrain vague où des silhouettes masquées se faufilent.
Miette et Silver, deux adolescents, découvrent ensemble les prémices de l'amour.
Miette et Silver restèrent longtemps muets. Ils lisaient dans leurs pensées inquiètes, et à mesure qu'ils descendaient ensemble dans la crainte et l'inconnu du lendemain, ils se serraient d'une étreinte plus étroite.
Ils s'entendaient jusqu'au cœur. Ils sentaient l'inutilité et la cruauté de toute plainte faite à voix haute.
« Tu reviendras, n'est-ce pas ?»
Silver, sans répondre, la gorge serrée et craignant de pleurer comme elle, la baisa sur la joue. « Veux-tu que nous marchions ? Nous pouvons faire un bout de promenade sur la route ?»
Miette pensait qu'elle n'aurait peut-être pas longtemps la joie d'un rendez-vous, d'une de ces causeries du soir pour lesquelles elle vivait les journées. « Oui, marchons, allons jusqu'au moulin, je passerai la nuit si tu voulais. »
Ils quittèrent le banc et se cachèrent dans l'ombre d'un tas de planches.
Là, Miette écarta sa pelisse qui était toute piquée à petits losanges et doublée d'une indienne rouge sang.
Puis elle jeta un pan de ce chaud et large manteau sur les épaules de Silver, l'enveloppant ainsi tout entier, le mettant avec elle, serré contre elle, dans le même vêtement.
Ils passèrent mutuellement un bras autour de leur taille pour ne faire qu'un.
Quand ils furent ainsi confondus en un seul être, quand ils se trouvèrent enfouis dans les plis de la pelisse au point de perdre toute forme humaine,
ils se mirent à marcher à petits pas, se dirigeant vers la route, traversant sans crainte les espaces nus du chantier, blanc de lune.
La route de Nice était bordée d'ormes séculaires, vieux géants, ruines grandioses et pleines encore de puissance, veillant sur les amoureux nocturnes.
Lorsque Silver et Miette se trouvèrent sous ces arbres, dont la lune dessinait le long du trottoir les branches fascinantes, ils rencontrèrent à deux ou trois reprises des masses noires qui se mouvaient silencieusement au ras des maisons.
C'était comme eux, des couples d'amoureux, hermétiquement clos dans un pan d'étoffe, promenant au fond de l'ombre leur tendresse discrète.
Les amants des villes du Midi ont adopté ce genre de promenade. Les garçons et les filles du peuple, ceux qui doivent se marier un jour et qui ne sont pas fichus de s'embrasser un peu auparavant, ignorent où se réfugier pour échanger des baisers, à l'aise sans trop s'exposer au bavardage.
Ils battent alors les faubourgs,
les terrains vagues,
les allées des routes,
tous les endroits où il y a peu de passants et beaucoup de trous noirs.
Et pour plus de prudence, comme tous les habitants se connaissent, ils ont le soin de se rendre méconnaissables en s'enfouissant dans une de ces grandes capes qui abriteraient une famille entière.
Les parents tolèrent ces courses en pleine ténèbres.
La morale rigide de la province ne paraît pas s'en alarmer.
Il est admis que les amoureux ne s'arrêtent jamais dans les coins, ni ne s'assoient au fond des terrains, et cela suffit pour calmer les pudeurs effarouchées.
On ne peut guère que s'embrasser en marchant.
Rien de plus charmant, en vérité, que ces promesses d'amour.
L'imagination câline et inventive du Midi est là tout entière.
C'est une véritable mascarade fertile en petits bonheurs et à la portée des misérables.
L'amoureuse n'a qu'à ouvrir son vêtement.
Elle a un asile tout près pour son amoureux. Elle le cache sur son cœur, dans la tiédeur de ses habits.
Comme les petites bourgeoises cachent leurs galants sous les lits ou dans les armoires.
Le fruit défendu prend ici une saveur particulièrement douce. Il se mange en plein air, au milieu des indifférents le long des routes.
Et ce qu'il y a d'exquis, ce qui donne une volupté pénétrante aux baisers échangés, ça doit être la certitude de pouvoir s'embrasser impunément devant le monde.
C'est l'amour qui passe, rien de plus.
L'amour sans nom, l'amour qu'on devine et qu'on ignore.
Les amants se savent bien cacher, ils causent à voix basse, ils sont chez eux.
Le plus souvent, ils ne disent rien.
Ils marchent pendant des heures au hasard, heureux de se sentir serrés ensemble dans le même bout d'indienne.
Par les belles nuits d'été, on ne peut faire le tour de Plassans sans découvrir, dans l'ombre de chaque pan de mur, un couple encapuchonné.
Sans bruit, au milieu des tiédeurs de la nuit sereine, on dirait les invités d'un bal mystérieux que les étoiles donneraient aux amours des pauvres gens.
comme un miroir de ses deux jeunes amants, Zola écrivit « Les contes à Ninon » en plein dans sa vingtaine, de début 1859. Récit aux allures autobiographiques.
Fougue de la jeunesse, liberté, première pierre à l'édifice monumental qu'il deviendra tout au long de sa vie.
Il y a juste 10 ans, ma chère âme, que je t'ai conté mes premiers contes.
Quels beaux amoureux nous étions alors.
J'arrivais de cette terre de Provence où j'ai grandi si libre.
Si confiant.
Si plein de tous les espoirs de la vie.
J'étais à toi.
À toi seule.
À ta tendresse.
À ton rêve.
Oh, quelle vie heureuse.
Nous étions lâchés dans l'amour, dans l'art, dans le songe.
Il n'est pas de buisson qu'il n'ait caché nos baisers, étouffé nos causeries.
Je t'emmenais, je te promenais. Comme la vivante poésie de mon enfance.
À nous deux, nous avions le ciel, la terre et les arbres et les eaux, jusqu'aux roches nues qui fermaient l'horizon.
Il me semblait, à cet âge, qu'en ouvrant les bras, j'allais prendre toute la campagne sur ma poitrine pour lui donner un baiser de paix. Je me sentais des forces, des désirs, des bontés de géant.
Nos courses de gamins échappés, nos amours d'oiseaux libres m'avaient inspiré un grand mépris du monde, une tranquille croyance aux seules énergies de la vie.
Oui, c'est dans tes tendresses de toutes les heures, mon ami, que j'ai fait jadis cette provision de courage dont mes compagnons, plus tard, se sont si souvent étonnés.
Les illusions de nos cœurs étaient des armures d'acier fin qui me protègent encore.
Je te quittais, je quittais cette Provence dont tu étais l'âme, et ce fut toi que, dès la veille de la lutte, j'invoquais comme une bonne sainte. Tu eus mon premier livre.
Il était tout plein de ton être.
Tout parfumé du parfum de tes cheveux. Tu m'avais envoyé au combat, avec un baiser au front, en amante brave qui veut la victoire du soldat qu'elle aime. Et moi, je ne me souvenais toujours que de ce baiser.
Je ne pensais qu'à toi.
Je ne pouvais parler que de toi.
Dites-le-moi du bout des lèvres, je l'entendrai du bout du cœur. Vos cris me dérangent, je rêve. Dites-le-moi doucement, murmurez-le-moi simplement. Je vous écouterai bien mieux, sans doute. Si vous parlez du bout des lèvres, j'entends très bien du bout du cœur. Et je peux continuer mon rêve, mon rêve. Que l'amour soit à mon oreille, tout comme le chant des abeilles. En été, un jour au soleil. Regardez dans le soir qui penche, la pince au poilier qui balance. Quelle est jolie sa voile blanche qui danse. Je vous le dis du bout des lèvres, vous m'agacez du bout du cœur. Vos cris me dérangent, je rêve. Je rêve. Venez donc me parler d'amour à voix basse dans ce contre-jour. Faites-moi, je vous en prie, silence. Prenons plutôt au soir qui penche, la pince au poilier qui balance. Quelle est jolie sa voile blanche qui danse. Je vous dirai du bout des lèvres, je vous aime du bout du cœur. Et nous pourrons vivre mon rêve, mon rêve.
Vous êtes bien sur Radio Bartas, laissez-vous embrasser avec prosopopée.
Avec pour thème les plus beaux baisers de la littérature, nous aurions pu rester en compagnie d'Émile Zola. Car il n'est pas seulement le colosse qui accuse, qui s'insurge dans le fond d'une mine ou sur les voies ferroviaires. Il décrit également et admirablement l'âme humaine et ses sentiments amoureux.
Mais continuons notre voyage dans la jeunesse des auteurs et de leurs personnages. Et posons-nous un instant sur deux balcons.
Le premier balcon, le plus attendu, tout d'abord, celui des deux amants de Vérone, Roméo et Juliette de William Shakespeare. Histoire tragique de deux familles qui se déchirent au cœur de l'Italie.
Avant le trop célèbre « Roméo, oh mon Roméo », cette fameuse scène du balcon devenue un topos littéraire, un lieu commun de la littérature, revenons à leur toute première rencontre. Le père de Juliette, chef du clan Capulet, organise un bal. Roméo, fils des Montaigu, s'y rend masqué.
Il aperçoit Juliette, masquée également, et tombe éperdument amoureux d'elle sans savoir qui elle est.
Shakespeare pose là les bases de notre imaginaire romantique. Ô temps, suspend ton vol.
Zéphyr embrasé, donnez-nous vos baisers.
Belle nuit, ô nuit d'amour, souris à nos ivresses.
Nuit plus douce que le jour.
Ô belle nuit d'amour.
Quelle est cette dame qui a enrichi la main de ce cavalier là-bas ?
Je ne sais pas, monsieur.
Oh, elle apprend au flambeau à illuminer. Sa beauté est suspendue à la face de la nuit comme un riche joyau à l'oreille d'une Éthiopienne. Beauté trop précieuse pour la possession, trop exquise pour la terre. Telle la colombe de neige dans une troupe de corneilles. Telle apparaît cette jeune dame au milieu de ses compagnes. Cette danse finie, j'épierai la place où elle se tient. Et je donnerai à ma main grossière le bonheur de toucher la sienne. Mon cœur a-t-il aimé jusqu'ici ? Non, jurez-le mes yeux, car jusqu'à ce soir, je n'avais pas vu la vraie beauté.
Il s'approchera d'elle.
Deux baisers comme des pèlerins épris de sainteté.
Baisers sur des lèvres vouées à la prière.
Deux baisers sur des lèvres qui n'ont pas encore osé pécher.
Et plus tard, par ce balcon, fenêtre ouverte sur leur destin, nos deux amants scelleront éternellement leur amour.
Nul besoin de vous la raconter. Vous connaissez la fin tragique de cette histoire.
Mais continuons par cette douce nuit, dans cette énergie romanesque. Revenons en France, accoudés à un autre balcon, celui de Roxane, qui n'est autre que la muse de Cyrano de Bergerac.
Edmond Rostand impose son style, et c'est rien de le dire, dans cette œuvre grandiose appelée plus communément « drame romantique », représentée pour la première fois le 28 décembre 1871 au Théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris.
Un baiser mais à tout prendre qu'est-ce ?
Un serment fait d'un peu plus près.
Une promesse plus précise.
Un aveu qui veut se confirmer.
Un point rose qu'on met sur le lit du verbe aimer.
C'est un secret qui prend la bouche pour oreille.
Un instant d'infini qui fait du bruit d'abeille.
Une communion. Ayant un goût de fleur.
Une façon d'un peu se respirer le cœur.
Et d'un peu se goûter, au bord des lèvres, l'âme.
Moi, j'avais 12 ans, j'étais en début de 5e et il mettait sa langue dans une position assez bizarre. Il faisait ça verticalement. Et moi, je continuais à tourner, quoi, parce qu'on m'a toujours dit qu'elle allait rouler, tourner, quoi, je sais pas. Et donc, j'étais vraiment déçue, et deux jours après, c'est terminé.
Qu'est-ce qui se passe après le premier baiser ? C'est quoi l'étape d'après ?
Mais c'est, je sais pas...
L'amour, je sais pas.
Non, enfin, cache l'amour, toi, mais t'as
ah
fait...
Non, après le premier...
Après le premier, c'est déjà plus doux, parce que le premier baiser, c'est même pas doux.
À mon avis,
c'est sans les mains, c'est...
En fait, c'est une expérience pour savoir comment c'est. Et puis la deuxième fois, on sait déjà comment on fait, donc bon...
La main derrière le dos, les petits regards langoureux. La première fois, c'est... Ouais, voilà, tu m'emballes, je t'emballe, on parle pas.
En fait,
après, c'est les grandes discussions, la complicité et tout. Ouais.
Le kiff, quoi. Plus loin, quoi.
C'est le coup de foudre, parce que le premier baby, c'est même pas un coup de foudre, quoi.
Non, c'est l'histoire d'essayer, quoi. Ouais. Vraiment, c'est ça.
C'est ça.
Ouais, c'est ça.
L'histoire, en fait.
Pouvoir dire après, c'est ouais, sorti avec quelqu'un.
Même si ça t'a dégoûté, tu dis, ouais, je suis sorti avec un
c'était
mec.
C'était génial et tout.
C'était nul, mais nul. Ouais, il était super beau, il était horrible. C'est un pur film, il était hyper grand, il faisait 1m10. Il était super, voilà. Il emballait hyper bien, il emballait la verticale. C'était comme ça, quoi. C'était comme ça.
On appréhende toujours la première fois, quoi. Moi, je sais que je tremblais complètement et tout, mais c'était horrible, quoi.
Ah
non, j'avais trop peur.
Ah, si. Ouais. Et quand vous étiez enfant, vous vous souvenez de baisers beaucoup plus petits?
Ah,
les smacks ouais, avec nos meilleurs amis. Style, on arrivait, bisous sur la bouche. Alors, on restait longtemps pour faire genre comme dans les films, on restait longtemps comme ça, mais en fait, on faisait rien du tout, on s'emballait pas. Sur la bouche, on faisait un bisou long, c'était comme ça, moins de 10 minutes, et tu en étais, je t'embrassais sur la bouche.
Je me rappelle que quand on parlait de la langue, pour moi, ça me paraissait dégueulasse, quoi. Je me disais, ah, c'est immonde et tout. Et puis bon, après, on s'y fait, quoi.
Puis quand on est petit dans les films, on se cache les yeux dès qu'il y a un bisou, et là, ils font l'amour, c'est horrible.
Et puis après, on regarde ça d'un autre œil, en fait. On se dit, tiens, et on essaye de regarder,
de voir, de se perfectionner dans le truc. Il tourne un peu la tête, bon, ok, on tourne un peu la tête.
Ah, j'avais 17 ans,
je me suis fiancée et je suis rentrée dans la chambre. C'est fini les fiançailles. Alors moi j'approche pour prendre mes chaussures et lui il m'a embrassée. J'avais toute la figure rouge. Tout rouge, on dirait quelqu'un, qu'est-ce qui m'a fait quelque chose. J'avais 17 ans. Ouais. En Tunisie, la goulette en Tunisie. Le premier baiser, c'est très rare hein, pour avoir un baiser de la fille. Très rare à l'époque, oui. En Tunisie surtout. Il y a des surveillances et tout. Il y avait ma soeur, elle nous surveillait quand je rentre, je sors et tout. La voisine, elle appelle pour qu'il m'embrasse quand j'étais fiancée. Oh là là, ça a été de bons souvenirs. On a été à l'école, les garçons d'un côté et les filles d'un côté. On ne connaissait pas ce que ça veut dire un garçon, voilà. Maintenant, c'est tout mélangé. C'est bien, hein?
Alors, bonjour, je m'appelle Sébastien Hickel. Me revoilà.
Et t'as une autre histoire de baiser à raconter?
Ouais, en Bretagne. Alors, ça s'est passé en Bretagne. Dans le Fouette. Déjà là-bas, j'étais partie le soir avec ma sœur. Et puis, on avait été à une fête. Et il y avait plein de copines là-bas. Et puis après, il y en avait une. Elle m'a demandé à danser. Alors, je lui ai dit oui. On a dansé et tout. Et ma sœur, elle a dit, bon, on rentre. J'ai dit, non, je reste encore un petit peu. Alors, on a dansé et tout. Après, on a été au bord de la mer. Et puis, on s'est assis. Puis, c'est là où on s'est embrassé.
Comment?
On s'est embrassé par terre. Sans langue, t'es fou, j'ai que ça à faire.
Sans la langue?
Ouais. Après, je suis revenue tard. Et puis, ma grand-mère a m'engueulé. Après, je suis partie chez moi. J'étais chez elle. Et puis, il y a la mère de ma copine. Elle a dit, tu peux monter, elle dort pas. Après, on s'est fait des bisous là-bas. Et puis, c'est là où après, je l'ai plus revue. Parce que la mère, elle est montée, elle m'a engueulée. Et puis, je suis partie. Et puis après, elle était partie.
Premier baiser sur la bouche.
C'était avec une... je devais avoir 14-15 ans, avec une jeune voisine que j'aimais, qui m'aimait, et puis clandestinement comme ça, un peu dans la peur, dans la grande maison, pendant la sieste, tout le monde dormait, nos parents dormaient, et puis on s'est embrassés, puis on s'est donné un beau baiser sur la bouche, sur la langue, comme disait Jeanne, et puis voilà.
Ça a quel goût?
Le goût de l'éternel et de l'inachevé.
Le goût de l'éternel et de l'inachevé, que dire de plus?
Vous êtes bien sur Radio Bartas dans Prosopopée. Nous venons d'entendre un extrait de l'émission Là-bas si j'y suis, et nous nous intéressons aujourd'hui au plus beau baiser de la littérature.
Sortons des sentiers classiques pour rencontrer Arnaud Catrine.
Il commence à écrire à l'âge de 15 ans et publie son premier roman, Les yeux secs, en 1998. Depuis, il a fait paraître 20 livres, dont 11 destinés à la jeunesse.
Dans Les vies de Lucas, quatrième roman de l'auteur, il est question de Liverpool et de Lucas, jeune fille de 17 ans, qui aspire plus que tout à prendre son envol.
Il est question de l'âge des possibles et de ce désir ardent de vivre.
Que le ciel me tombe sur la bouche. Il faut que tu m'embrasses debout. Je suis certaine d'admirer ta façon d'être plus grand que moi. Il faut que le ciel me tombe sur la bouche, que j'en ai le souffle court, que je te dise des choses absurdes et précipitées, que j'ai ton odeur partout sur moi. Ah, que je te dise cette chose idiote et réelle, ça commence aujourd'hui. Ah, c'est émouvant de t'embrasser. Ah, tu ne peux pas le savoir, mais je te le dis, on va bientôt arriver à Londres, on va s'inventer une vie à nous deux et qui nous enverra si bien en l'air. Mais viens, que je te tienne par la taille dans la rue, là, tout près. Pourquoi je te regarde comme ça? Parce que j'ai une foutue envie que tu m'étouffes dans le couloir du train et que j'en réchappe pas.
Se aprissi gli occhi, saprei cosa guardare. Il tuo splendido volto, così pieno di luce.
Dans ce train direction Londres, nous pourrions rencontrer Arthur Rimbaud dans le compartiment d'un autre siècle.
Le poète des sensations fait du baiser un rêve pour l'hiver, un rêve sentimental.
l'hiver, nous irons dans un petit wagon rose avec des coussins bleus. Nous serons bien. Un nid de baisers fous repose dans chaque coin moelleux.
Tu fermeras l'œil pour ne point voir par la glace grimacer les ombres des soirs, ces monstruosités hargneuses, populaces, de démons noirs et de loups noirs.
Puis, tu te sentiras la joue égratignée. Un petit baiser comme une folle araignée te courra par le cou.
Et tu me diras « cherche » en inclinant la tête et nous prendrons du temps à trouver cette bête qui voyage beaucoup.
Une bête qui voyage beaucoup n'est pas sans rappeler le poème « Coccinelle » de Victor Hugo. Ajoutons alors un passager dans ce train.
Il n'est pas désagréable de voyager en compagnie de l'homme de Notre-Dame.
Fou furieux de l'amour, passionné par la vie, dans ce fameux coccinelle, il se veut tantôt taquin, charnel, pastoral, un tantinet Brassens dans le côté fripon.
Dans le second poème, intitulé très sobrement « À une femme », il retrouve ses allures de cathédrale, son style tranche dans le solennel, conquérant chimérique à l'instar des tragiques.
Elle me dit « Quelque chose me tourmente ». Et j'aperçus son cou de neige et, dessus, un petit insecte rose. J'aurais dû, mais sage ou fou, à 16 ans on est farouche, voir le baiser sur sa bouche, plus que l'insecte à son cou. On eût dit un coquillage, d'eau rose et tachée de noir. Les fauvettes pour nous voir se penchaient dans le feuillage. Sa bouche franche était là. Je me courbai sur la belle et je pris la coccinelle, mais le baiser s'envola. « Fils, apprends comme on me nomme, dit l'insecte au ciel bleu. Les bêtes sont au bon Dieu, mais la bêtise est à l'homme.
Enfant, si j'étais roi, je donnerais l'empire, et mon char, et mon sceptre, et mon peuple à genoux, et ma couronne d'or, et mes bains de porphyre, et mes flottes à qui la mer ne peut suffire pour un regard de vous. Si j'étais Dieu, la terre et l'air, avec les ondes, les anges, les démons courbés devant ma loi, et le profond chaos aux entrailles fécondes, l'éternité, l'espace, et les cieux, et les mondes, pour un baiser de toi.
Je chante un baiser, je chante un baiser osé, sur mes lèvres déposées, par une inconnue que j'ai croisée. Je chante un baiser, marchant dans la brume, le cœur démoli par une, sur le chemin des dunes, la plage de Malobré d'une. La mer du Nord en hiver sortait ses éléphants gris verts, des adamos passaient bien couverts, donnant à la plage son caractère naïf et sincère. Le vent de Belgique transportait de la musique, des flonflons à la française, des fancifères à la fraise. Elle s'est avancée, rien n'avait été organisé. Autour de moi, elle a mis ses bras croisés et ses yeux se sont fermés, fermés. Jugez ma fortune sous l'écharpe, les boucles brunes. C'est vrai qu'en blonde j'ai des lacunes, en blonde j'ai des lacunes. Oh, le grand air, tournez le vent, la dune à l'envers. Tournez le ciel et tournez la terre, tournez, tournez le grand air. La Belgique locale envoyait son ambiance musicale, de flonflon à la française, de fancifère à la fraise.
Vous êtes bien sur Prosopopée. Continuons cette plongée littéraire au cœur des plus beaux baisers de la littérature.
Autre style, autre histoire, retournons du côté du contemporain.
Nicolas Rey, dans son livre « Courir à 30 ans » paru en 2006, pose différentes questions sur l'engagement, la routine conjugale, les enfants, l'amitié.
Les protagonistes courent après le temps, essayant de rattraper leur jeunesse.
Le premier extrait parle d'une certaine maladie du long baiser. Étrange coïncidence avec notre foutu Covid.
Et le second interroge la fidélité, la tentation de l'inconnu. Comme quoi un baiser peut faire vaciller votre quotidien trop bien muselé.
Je m'enfonce dans un fauteuil avec en fond sonore la revue de presse de mon fils sur l'actualité du monde.
Il se passionne pour l'actualité, les guerres civiles et la sauvegarde de la planète.
à ma deuxième tisane de thym, il me reproche mon absence de position sur la MDLB, la maladie du long baiser.
Un fléau qui est apparu en janvier 2033 et qui empêche les gens de s'embrasser sur la bouche sous peine de mourir dans les mois qui suivent dans d'atroces souffrances.
Cette nouvelle maladie touche essentiellement les jeunes personnes.
Et pourquoi ?
Parce qu'il n'existe que les adolescents pour s'aimer assez au point de s'embrasser plus d'une minute et 30 secondes.
Ensuite, enfin, ensuite, tout le monde sait comment les choses se passent. Nous montons.
Un canapé rapproche nos deux corps. Le gouffre à quelques centimètres.
Un gouffre calme, apaisé.
Elle boit beaucoup. Je pense à ma femme.
C'est une pensée assez lointaine, un rendez-vous chez le dentiste.
Si tu embrasses cette fille, tu ne pourras ni mentir ni cloisonner.
Si tu approches encore un peu tes lèvres de cette fille, les années qui viennent vont être modifiées.
Le goût de ses lèvres. Les vies sont ainsi faites.
Elles tiennent le coup des décennies entières, puis basculent sur un baiser.
Embrasser quelqu'un qu'on aime et qu'on ne connaît pas est une drôle d'idée.
En faisant cela, on suppose assez facilement les bonheurs et les emmerdements à venir.
Une poignée de secondes en guise de départ inéluctable.
Un départ étrange, confortable et doux.
Ensuite, des nuits blanches, des ennuis par milliers.
Des lâchetés à résoudre. Ensuite, mais demain ?
Cette nuit d'abord.
Ok, cette nuit.
Serveur, je voudrais la même chose.
Et continuons cette soirée, justement.
Mais remontons le temps.
Au loin, un vieux jazz fait craquer les planchers de la Belle Époque.
Aurélien, le héros d'Aragon, rencontre Bérénice dans un bar du Paris de l'entre-deux-guerres.
Fulgurance et naïveté d'un amour naissant. La rencontre, la découverte de l'autre.
Aurélien est l'un de ces hommes de l'autre guerre, passé de l'enfance au service, qui achevait de tirer leurs 3 ans en 14.
Maintenu 4 ans sur les champs de bataille, il est revenu sain et sauf de l'aventure, mais il fut comme beaucoup à jamais marqué par elle.
Il n'a pu se réadapter à la vie, faute de savoir la diriger, la subit, se laissant porter.
Ce soir, c'est le moment d'oublier la grande faucheuse. Premier rapprochement avec Bérénice.
Il y a foule ce soir, l'ambiance est électrique.
Allez Aurélien, embrasse-la.
Sa main dans la sienne. Il s'assura que Blanchette, vaincue, ne le regardait plus et, doucement, il approcha sa main du bras nu de Bérénice.
Tout en lui était en éveil. Il sentait chaque point de son être. Il allait toucher ce bras.
Il allait oser cela.
Cette audace pouvait tout détruire.
Il pensa à retirer sa main.
Il ne la retira pas.
Parce qu'on ne peut pas être lâche.
Dans cette loge de Paris où tout si banalement se passait entre un homme et une femme après tout, il reconnut ce sentiment qui lui faisait battre le cœur.
Il se revit ainsi, la nuit, dans un petit poste en argonne derrière les arbres brisés.
Sa paume prit le bras de Bérénice et doucement le serra.
Un frémissement lui répondit, la surprise.
Il sut que si l'étreinte se relâchait, tout était perdu.
Le bras se dégagerait.
Il fit glisser sa main comme pour une caresse et emprisonna le coude.
Il attendit. Le frisson s'était calmé. Le bras demeurait immobile, d'une immobilité surprenante. Les cheveux de Bérénice touchaient, effleuraient le visage d'Aurélien.
Ah, dans cette minute, elle était à lui comme un oiseau fasciné.
Tout pouvait rompre le prodige.
Mais le prodige durait.
C'est alors qu'il aurait fallu dire « Je vous aime ».
Alors ?
Mais Aurélien ne le pouvait pas. Il avait peur des mots murmurés. Et de ces mots-là, surtout si nouveaux, si difficiles.
Le final de la première partie faisait feu d'artifice sur la scène.
Les vedettes revenaient entre les girls, les danseurs à petites vestes courtes, les robes pailletées.
L'orchestre envoyait des baisers sonores et entraînait de plus en plus vite les acteurs trépidants, répétant à l'envi leurs gestes parallèles, croisant les bras et entrechoquant leurs genoux à mesure.
La lumière allait revenir. Je vous aime.
Ah, il n'avait fait que de le penser.
Bérénice eut ce geste des épaules par quoi elle semblait souvent essayer de rattraper un châle en train de tomber, et sa main à la dérobée prit la main d'Aurélien très doucement et la détacha de son coude comme elle eût fait d'une feuille accrochée en traversant une forêt.
Finissons notre course effrénée dans le lit et les bras de deux femmes. Et oui, l'amour n'est pas seulement masculin-féminin.
Thérèse et Isabelle, écrite par Violette Leduc en 1954. Voici l'extrait original car à cette époque, on l'a jugée trop scandaleuse. Évidemment, lorsqu'une femme ose parler de son plaisir et qui plus est avec une autre femme, la censure monte au créneau.
C'est avec délectation que nous retrouvons cette langue âpre et précieuse, cette langue nue et violente qui témoigne d'une liberté de ton qu'aucune femme écrivain en France n'avait osé prendre avant elle. Isabelle me tira en arrière, elle me coucha en travers de l'édredon, elle me souleva, elle me garda dans des bras, elle me sortait d'un monde où je n'avais pas vécu pour me lancer dans un monde où je ne vivais pas encore. Les lèvres entr'ouvrirent les miennes, mouillèrent mes dents que je serrais. J'attendais absente et recueillie. Les lèvres se promenaient sur mes lèvres, des pétales m'époussetaient. Mon cœur battait trop haut et je voulais écouter ce scellé de douceur, ce frôlement neuf. Oh, Isabelle m'embrasse, me disais-je. Elle traçait un cercle autour de ma bouche, elle encerclait le trouble, elle mettait un baiser frais dans chaque coin, elle déposait deux notes piquées, elle revenait, elle hivernait. Mes yeux étaient gros d'étonnement sous mes paupières, la rumeur des coquillages trop vastes.
Et nous refermons ce prosopopée en vous laissant l'eau à la bouche et l'envie d'embrasser la terre entière.
Allez, courage, nous nous reverrons bientôt et comme dirait la chanson, nous vous envoyons 24 000 baisers.
À bientôt sur Radio Bartas.
On est là pour quoi ? On est là pour qui ? Dans les magasins, à se prendre la tête. Au fond, qu'est-ce qu'on veut ? Au fond, qu'est-ce qu'on cherche ?
Qu'est-ce qu'on cherche ?
Quand on se prend la tête, mais qu'est-ce qu'on attend ? Des bisous. Quand on se dit fuck, je te défonce la gueule, tout en insultant. Globalement, en définitive, mais qu'est-ce qu'on attend?